Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Kieran Gessel, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan. Petit conseil à quiconque envisagerait de débaptiser son parti politique pour le faire renaître sous un nouveau nom, ne piochez pas au hasard dans le vocabulaire. Commencez justement par rayer de la liste le mot « parti » ou encore « front ». À ces deux termes, préférez « union » ou « rassemblement », « alliance » le cas échéant. C'est en tout cas ce que nous enseigne un sondage publié hier dans le journal du dimanche. Alors, plutôt que d'interroger les électeurs, Le Monde, lui, a eu une autre idée sans remettre aux algorithmes. Le journal propose sur son site un générateur automatique de noms de partis politiques. Vous êtes de gauche, vous militerez désormais par exemple au sein de l'Alliance du Mouvement pour Demain d'abord. De droite, ce sera le Rassemblement gaulliste pour la nation vers l'avenir. Alors, si vos journaux font tous ces efforts d'imagination, c'est que le changement de nom est à la mode. Marine Le Pen y réfléchit depuis quelque temps, souhaitant gommer le front de sa formation, obstacle à sa dédiabolisation. Nicolas Sarkozy, lui, veut en finir avec l'UMP, prenant sans doute exemple sur Orange ou LCL, entreprise ayant réussi à se refaire une virginité en abandonnant France Télécom et le Crédit Lyonnais. Quant au PS, Manuel Valls ne verrait aucun inconvénient à ce qu'il écarte toute mention au socialisme. Le Premier ministre propose dans l'Obs de bâtir une maison commune à toutes les forces progressistes du pays. Le fait que ces initiatives soient concomitantes n'est sans doute pas le fruit du hasard. La structure parti politique est en difficulté, ne sachant plus très bien comment produire des idées ni lesquelles. Dès lors, changer de nom s'apparente à une simple rénovation de façade. Alors comment refonder les partis politiques? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir deux refondateurs, un ancien, un nouveau. Je commence par l'ancien, Roger Martelly, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, vous avez été membre du Parti communiste français jusqu'en 2010. Vous avez quitté le PC à l'époque en même temps que les refondateurs. Vous en avez d'ailleurs tiré un livre publié cette année aux éditions Arcane 17. L'occasion manquée, été 1984, quand le PCF se referme. Je précise par ailleurs que vous êtes le co-directeur de la revue Regard et que vous publiez justement un article consacré à ces changements de nom de parti en rafale, enfin changement en tout cas, projet de changement de nom. Pour discuter donc avec vous ce soir, un néo-refondateur, c'est comme ça que je vous ai appelé juste avant que vous rentriez dans le studio, Jonas Haddad, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes adjoint au maire de la ville de Bernay, dans l'Eure, secrétaire national de l'UMP, un des animateurs de Refonder la droite, lancé en juin dernier. C'est un think tank, alors là je suis allé voir sur votre compte Twitter, think tank indépendant proposant de repenser le logiciel idéologique de la droite pour sortir la France du déclin et redonner foi en l'avenir. Vous avez publié un livre, c'était également aux éditions de L'Harmattan, vous n'êtes pas le seul auteur, mais ça s'appelle Droite 2.0. Notre troisième invité se trouve au téléphone, quelque part dans l'ouest de la France, sur une île où il fait bon vivre. Il s'agit de Rémi Lefebvre, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Vous êtes politologue, chercheur au CNRS, professeur de sciences politiques à l'université Lille 2. On vous doit notamment en 2011, aux éditions Raison d'agir, les primaires socialistes, la fin du parti militant. Voilà, donc avec vous trois, nous allons essayer de voir comment refonder les partis politiques. Est-ce que le changement de nom suffit? Sans doute pas. Comment est-ce qu'on change les hommes et les femmes qui font la vie de ces partis? Comment est-ce qu'on change d'idée? Puis également la manière de produire celle-ci. Mais j'aimerais d'abord, pour commencer, peut-être vous demander une définition à chacun d'entre vous de ce que ça veut dire pour vous refondation ou voire refonder. Roger Martelly, refonder, ça veut dire quoi?
Le terme de refonder est né dans le mouvement communiste au milieu des années 80, quand le Parti communiste se trouvait confronté à l'amorce d'un déclin électoral profond et qu'en son sein, un grand débat s'était engagé pour savoir quoi faire. Et je dirais qu'à cette époque-là, deux tentations se faisaient jour. Celle qui consistait à dire « il ne faut pas changer ni le nom, ni la structure. Il faut continuer, s'arc-bouter, attendre que le balancier revienne dans le bon sens. Et de l'autre côté, la tentation inverse consistant un peu à rompre les amarres, à abandonner les valeurs fondatrices et à faire disparaître, en quelque sorte, la référence au communisme. Et nous avons été un certain nombre à l'intérieur de la direction du Parti communiste à dire ces deux solutions sont des impasses meurtrières. Il faut trouver une voie intermédiaire, refonder, c'est continuer et en même temps continuer, maintenir l'essentiel des valeurs et en même temps transformer les idées, les formes, les pratiques politiques pour rester fidèle au parti pris originel.
Jonas Haddad, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette définition de la refondation, une voie intermédiaire ?
Je ne sais pas si ça a produit les effets escomptés au niveau du Parti communiste, mais pour moi, refonder, en fait, ça consiste à d'abord et avant tout prendre en compte les mouvements de la société. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que les partis politiques sont trop déconnectés de ce qui se passe dans la société. Je prends un exemple, notamment à droite, nous n'avons pas suffisamment pris en compte les impacts de la numérisation très rapide de notre vie quotidienne. Et par conséquent, on est passé à côté de plusieurs sujets. Donc refonder, pour moi, ça s'inscrivait aussi dans un processus qui était le processus de défaite. En 2012, nous avons perdu l'élection présidentielle. Et on peut dire que les deux ans qui ont succédé cette défaite nous ont donné raison. On voit bien que si on avait refondé dès le départ à l'issue de cette élection présidentielle, on aurait pu avoir quelque chose de beaucoup plus sain. Or, on a tout mis sous le tapis, on a décidé de ne pas refonder, de se battre sur les hommes plutôt que sur les idées. Et c'est maintenant, effectivement, qu'on recommence à parler des idées plutôt que des hommes. C'est maintenant le moment de refonder.
Rémi Lefebvre, en novembre 2009, c'était dans le journal Le Monde, enfin je ne suis pas sûr du mois de novembre, enfin en tout cas c'était en 2009, où vous évoquiez le terme, alors non pas de refondation, mais de rénovation appliquée au Parti Socialiste, en disant que c'était pour vous un mot qui était usé et démonétisé. Est-ce qu'on pourrait dire autant de la refondation ? D'ailleurs, est-ce que les deux termes pour vous sont équivalents ?
Bah écoutez, peut-être que rénovation, ça va un petit peu moins loin que refondation, mais à mon avis, l'imaginaire politique est un peu le même. C'est l'idée que les partis politiques sont soumis régulièrement à des crises, notamment des défaites électorales, des situations de désajustement entre leur idéologie et l'environnement politique. Et donc, ils sont amenés à un moment donné à se relégitimer. C'est aussi parce que dans ces partis politiques, les partis politiques étant des univers de lutte pour la définition de ce qu'est le parti, il y a des acteurs qui se posent en rénovateurs. Et donc au Parti Socialiste, ce qui est flagrant, c'est que depuis le début des années 90, le discours de la rénovation revient de manière récurrente à chaque moment où il y a des crises politiques, souvent après des défaites, mais l'état de crise d'ailleurs est un état quasi permanent au Parti Socialiste, et donc il y a cette espèce d'incantation de la rénovation, alors qui est martelée régulièrement et qui effectivement avec le temps se démonétise parce que beaucoup d'acteurs savent très bien que c'est un jeu dont plus personne n'est très très dupe. On le voit actuellement aujourd'hui puisqu'il y a à nouveau des états généraux de la rénovation au Parti Socialiste suite aux défaites des européennes et des municipales. Et donc c'est un discours comme ça, une espèce de discours mythologique mais qui est ressassé au Parti Socialiste depuis longtemps et qui traduit aussi un décalage entre ce que voudrait être le parti et ce qu'il est réellement.
Plus largement, Rémi Lefebvre, est-ce que cette volonté affichée à l'UMP, au Front National, au Parti Socialiste par certains de changer de nom, est-ce que ça participe de cette quête de relégitimation des formations politiques ?
Mais écoutez, le drame des partis politiques, mais c'est un phénomène ancien, c'est que les partis politiques sont liés à la démocratie représentative. Or, aujourd'hui, elle est en crise, cette démocratie, de manière très très vivace, très aiguë. Et donc, du coup, les partis politiques qui, en France, n'ont jamais été une institution appréciée par l'opinion publique. C'est-à-dire que la crise des partis, elle est aussi vieille que l'histoire des partis. Tout au long de l'histoire, il y a eu des périodes, peut-être, où l'intensité de cette crise a été plus grande, mais les partis politiques n'ont jamais été appréciés. Ils sont une espèce de mal nécessaire. Ils sont perçus comme un mal nécessaire de la démocratie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans une situation de crise du politique très aiguë, les partis politiques sont la forme la plus achevée de la politique traditionnelle.
Et donc changer de nom, Rémi Lefebvre ?
Alors, je ne sais pas s'il faudrait changer de nom, mais d'ailleurs, les partis politiques ont beaucoup changé. C'est-à-dire que ce qu'on entend par parti politique aujourd'hui et ce que c'était il y a 20 ans, c'est le même nom, mais ce n'est plus forcément la même chose. Aujourd'hui, comme ça a été dit précédemment, les partis politiques sont beaucoup moins implantés dans la société. Ils sont devenus des machines électorales dont le statut a beaucoup changé. Donc le terme parti ne veut plus dire la même chose finalement que les organisations d'il y a 20 ans.
Je l'évoquais d'ailleurs en début d'émission, ce sondage publié hier dans le journal du dimanche sur cette idée de donner donc à des nouveaux noms aux formations politiques. Le terme parti est un des termes qui est le moins, qui suscite le moins d'adhésion auprès des personnes qui étaient interrogées. Changer de nom, Roger Martelly, est-ce que c'est un passage obligé pour refonder une formation politique ou bien est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît totalement accessoire ?
Disons d'abord que le fait que l'on se pose de façon massive cette question du changement de nom à la fois au Front National, à l'UMP et au Parti Socialiste, il faut considérer d'abord que c'est un symptôme de quelque chose. Le symptôme d'une inadaptation profonde du système partisan français, d'une adaptation profonde des partis politiques français. Les partis politiques sont nés à la charnière du 19e et du 20e siècle, à un moment où l'imposition du suffrage universel et le développement d'une démocratie qu'on pouvait considérer comme une démocratie qui tendait à être une démocratie de masse nécessitait l'élaboration d'outils rendant possible la politisation démocratique et notamment des catégories populaires. Le problème est que les partis politiques, aujourd'hui, peu à peu, ont perdu le sens de ce qui faisaient leur utilité, ils ont perdu leur utilité aux yeux de millions d'individus. C'est cette perte d'utilité qui est au cœur de la crise du système partisan. C'est cela qu'il faut surmonter aujourd'hui. Je crains simplement qu'à se polariser sur la question du nom, on ne passe à côté d'éléments beaucoup plus fondamentaux. Remettre le système en état de marche, peut-être, ne passe pas simplement par la refondation des partis. Peut-être faut-il voir plus loin, beaucoup plus profond. C'est sans doute plutôt une refondation de la vie politique dans son ensemble qui devrait être à l'ordre du jour.
Jonas Haddad, je ne sais pas si vous êtes partisan ou non d'un changement de nom pour l'UMP, qui pourrait peut-être s'appeler d'ailleurs la droite 2.0, puisque c'est le titre de votre livre.
Ce serait jackpot, mais non, la réalité, c'est que je pense que, comme le disait tout à l'heure M. Martelly, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, les hommes politiques sont devenus un peu les poupées vaudou de la société. Dès qu'il y a quelque chose qui va mal, ça fait du bien aux médias, à la société, de planter sur les hommes politiques ce qui ne convient pas. Mais je pense que ce n'est pas la bonne méthode, que le parti politique a encore une raison d'être, mais il faut s'interroger sur le pourquoi. Est-ce que le changer de nom est une réponse ? Je vais vous faire une réponse, en fait, pas de normand, mais en réalité, qui se distingue entre...
Bien que vous le soyez un peu, entre
la droite et la gauche. Je pense qu'à droite, la réalité, c'est qu'il y a, un, la notion du leadership, et deux, il n'y a pas dans le nom même de l'UMP, l'idéologie. Union pour un mouvement populaire, la seule idéologie qui est là-dedans, c'est qu'on essaie de s'adresser aux classes populaires. C'est une belle idéologie. Alors qu'à gauche, vous avez quand même Parti Socialiste et Parti Communiste qui sont extrêmement connotés comme idéologie et qui sont, c'est vrai, les supports d'idéologie qui semblent dépasser aujourd'hui. Donc pour moi, changer le nom de l'UMP, ce serait comme un shoot assez rapide. Il y aurait un petit effet à court terme, un effet marketing. Mais la réalité, c'est que si on n'en revient pas à quelque chose qui est idéologique, l'effet, il ne sera pas très profond. Alors que si le Parti Socialiste ou le Parti Communiste change de nom, là, il y aura un effet profond puisqu'on bouge la ligne idéologique. Voilà la différence.
Elle est assez intéressante, cette différence que fait Jonas Haddad, Rémi Lefebvre. Effectivement, à gauche, enlever le terme socialisme, ça a sans doute plus d'impact, ou le terme de communisme, que UMP, qui de toute manière est un mouvement assez récent. La droite, d'ailleurs, a eu l'occasion, au fil des années, de modifier régulièrement le nom de ces formations, voire leur sens, d'ailleurs, parce qu'au UMP, il faut rappeler qu'au départ,
c'était... Majorité présidentielle.
Voilà, Union pour la majorité présidentielle. Ça a changé un petit peu par la suite. Rémi Lefebvre.
Intéressant, mais je pense que les partis politiques n'ont pas du tout le même statut dans la culture politique de gauche et de droite. Comme l'a dit Roger Martelly, les partis politiques sont une partie intégrante de l'identité de la gauche en France, puisque les partis politiques s'intègrent dans un projet d'émancipation des milieux populaires qu'ils représentent, alors que dans le cas de la droite, les partis politiques sont beaucoup plus des partis de cadre, des partis d'élus, des partis où la question du leadership est centrale, où la question de l'idéologie n'est pas centrale. Et donc pour moi, et là je suis tout à fait d'accord aussi avec Roger Martelly, la question du nom des partis traduit une défiance et une crise plus profonde qui touche les partis politiques et en particulier le projet de gauche Hein, c'est ce que j'ai essayé de dire dans mon bouquin sur les primaires. Les primaires, c'était une belle idée, mais en fond, ça dénature ce que sont les partis politiques dans leur projet aujourd'hui d'idéologisation de la société, parce que je pense qu'il peut y encore avoir ce type de projet d'idéologisation, mais les structures telles qu'elles sont inadaptées aujourd'hui pour politiser la société, d'où ce discrédit, d'où l'impression finalement que les gens pensent que c'est une coquille vide, le parti politique, qui n'a plus d'utilité que dans l'exercice du pouvoir, dans la quête du pouvoir.
Roger Martelly, juste pour refermer le chapitre du changement de nom, est-ce que ça faisait partie des objectifs des refondateurs du Parti communiste ?
Pas véritablement. C'est-à-dire, nous considérions à cette époque-là que le communisme comme projet politique restait d'actualité et même d'une certaine manière était, contrairement aux apparences, beaucoup plus moderne aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 150 ans quand deux jeunes hurluberlus allemands, Marx et Engels, évoquaient la création de quelque chose qui n'existait pas, un parti communiste. Donc, nous ne faisions pas de cette question une question fondamentale. En revanche, nous faisions une question fondamentale de la reconstitution du socle de développement de l'activité politique communiste, c'est-à-dire à la fois les fondements idéologiques, mais aussi la conception du rapport à la société et la conception du parti.
Alors justement, Rémi Lefebvre a évoqué la notion de coquille vide. On peut la comprendre à la fois coquille vide en termes de militantisme, c'est-à-dire des partis qui sont de moins en moins peut-être des partis de militants, mais aussi coquille vide d'un point de vue idéologique. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, globalement, les partis politiques sont les endroits où se créent les idées ?
Non, ils ne le sont pas, mais... je crois, je le disais tout à l'heure, pour se poser utilement la question des partis, il faut se poser la question de la vie politique. Et là, nous sommes devant un problème qui est un problème de la crise de la politique en général et pas simplement la crise des partis politiques, pour au moins trois raisons. La première, c'est que la politique a perdu de son sens. Elle a perdu son sens pour quelle raison ? Mais tout simplement parce que dans l'ensemble de la société, l'économique désormais prime sur le politique. Et donc les politiques apparaissent comme accompagnants des décisions, des grands choix de société qui sont construits en dehors d'eux. La deuxième raison, c'est que la politique a perdu de sa fonction fondamentale, à mon avis, qui était dans l'espace institutionnel de permettre de discuter de projets de société. Or, cette fonction de discussion de projets de société a laissé la place, j'allais dire, à la communication, à la com. C'est-à-dire, ce qui est en jeu, c'est la construction des images qui prime sur la construction des projets. Et la troisième raison, me semble-t-il, de cette crise de la politique, c'est que la politique démocratique a pour fonction l'implication des citoyens. Or, je pense que cette implication des citoyens est contredite par une logique de fonctionnement des institutions politiques qui tourne autour du concept de gouvernance. La gouvernance, c'est le pouvoir des techniciens. On n'a pas besoin du peuple pour cela et donc on n'a pas besoin de structures politiques permettant l'intervention des catégories populaires. À mon avis, si l'on ne touche pas à ça, j'allais dire, on ne peut pas véritablement refonder le système politique et donc, au fond, le changement de nom ne sera qu'un cautère sur une jambe de bois.
Jonas Haddad.
Mais si j'ose dire, c'est un peu le chat qui se mord la queue, parce que la réalité, c'est que et pour le coup, je suis assez d'accord avec votre analyse qui consiste à dire que l'économique aujourd'hui peut primer et qu'on est rentré dans un monde politique qui peut être gouverné par les technos. Mais la question, c'est pourquoi ? Est-ce que c'est simplement parce que les politiques sont responsables ou aussi parce que l'opinion publique a, pendant plusieurs années, délibérément livré en pâture les politiques ? Je regardais par exemple ce qui s'est passé, et pour le coup, je vais d'un bout à l'autre de l'échiquier. Pauline Delpech, c'est une élue Europe Écologie Les Verts parisienne, et Isabelle Balkany, c'est les deux bouts de la chaîne politique. Hein. Cette semaine, on a dévoilé leur compte en banque personnelle. Et donc, on a fait un travail dans lequel on a dévoilé, on dit, au nom de la transparence, on dévoilait. Bien évidemment qu'à partir du moment où vous allez dans ce degré-là de pénétration de l'intimité du politique, que forcément, à un moment, vous allez le décrédibiliser et le mettre en cause. Et c'est là que rentre le pouvoir économique et c'est là que rentre en compte le pouvoir des technos. Donc en fait, à force de dire, il faut de la transparence, il faut interdire le cumul, les politiques sont trop payées, il faut réduire le nombre de parlementaires, et bien finalement... À force de vouloir faire moderne en disant il faut limiter le pouvoir des politiques, on fait rentrer le pouvoir économique et on fait rentrer le pouvoir des technos. Et là où peut-être qu'on se rejoindra, c'est que je trouve qu'à l'UMP comme au PS, ceux qui veulent faire moderne disent toujours il faut réduire le nombre de parlementaires, la vie politique c'est trop payé, moi je suis plus transparent, je lave plus blanc que blanc. Or aujourd'hui, il faut assumer que quand on est responsable politique, ça prend du temps, ça doit être correctement rémunéré, et c'est ça en fait la refondation, c'est de se dire que le politique doit reprendre le pouvoir. J'ajouterais juste une chose.
La politique et les partis politiques, c'est-à-dire cet outil-là qui n'est pas le seul outil, comme l'expliquait Roger Martelly, mais qui est un outil central, c'est-à-dire vous vous dites en gros, il faut redonner de quoi, de la crédibilité, de la légitimité aux partis politiques.
De la légitimité, parce que pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe sinon ? Je vous prends un exemple de la droite. En 2013, nous avons été toujours à courir derrière la société civile, avec la manif pour tous, avec les bonnets rouges, avec les poussins, avec les pigeons, avec dans une certaine mesure cette histoire de Dieudonné qui a pénétré certains cercles de la droite un peu extrême. La réalité de ce qui s'est passé, c'est que le parti politique était tellement dévitalisé, on avait tellement critiqué ce que c'était qu'un parti politique, que c'est la société civile. Mais quand la société civile s'empare de quelque chose, c'est par nature toujours éphémère. Quand les poussins font leur truc, à partir du moment où ça se termine, ça termine. Quand la manif pour tous est contre le mariage pour tous, on a des extrémistes. Et vous voyez, en fait, quand le parti politique n'est pas là pour canaliser et faire de quelque chose qui est éphémère, quelque chose de durable et qui peut se traduire dans les urnes, on a le risque de se faire dépasser par la société civile. Donc à force de dire que le politique est en crise, on fait de la prophétie autoréalisatrice et les partis, effectivement, n'ont plus de légitimité pour peser dans le débat public.
Le risque que les partis politiques se fassent dépasser par la société civile, Rémi Lefebvre ?
Bah écoutez, déjà, ils ne reflètent pas beaucoup la société civile, hein, parce que bon, dans tout ce qui a été dit, il y a eu beaucoup de choses de dit, mais il y a un processus aussi qui mériterait d'être relevé, c'est la question de la professionnalisation politique. Notre interlocuteur de l'UMP parle de la mise en cause du personnel politique, mais aujourd'hui, le problème de notre démocratie, c'est l'hyper-professionnalisation politique. On a aujourd'hui un personnel politique de moins en moins représentatif socialement, qui est dans les partis politiques, qui est au Parti Socialiste, où on observe de plus en plus que les jeunes élus sont des anciens collaborateurs d'élus, et cette professionnalisation politique, elle vide aussi de sa légitimité les partis politiques. Alors par rapport à la société civile, c'est vrai qu'on a l'impression que les partis politiques sont dans une relation d'immédiateté. Ils ne portent plus une vérité, un projet, et du coup ils s'ajustent en permanence à la démocratie d'opinion, aux demandes. Ils ont l'impression d'être ballottés comme ça par les sondages. On le voit très très bien, les sondages jouant de plus en plus un rôle dans la sélection des candidats. On le voit très bien avec Alain Juppé et Sarkozy et la pré-primaire à l'UMP. Et donc le problème, c'est que les partis politiques étaient pensés comme une forme d'avant-garde. Aujourd'hui, ils ne sont ni une avant-garde, ni une forme de reflet en fait, de la société. Du coup, là encore, ils perdent de leur légitimité.
Une façon de refonder les partis politiques, Rémi Lefebvre, ça pourrait être, je ne sais pas moi, de limiter le nombre de mandats pour qu'il y ait un renouvellement des cadres qui soit plus important qu'aujourd'hui.
Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est la limitation dans le temps du cumul. Bon, déjà, on voit les difficultés à limiter le cumul dans les positions, mais aujourd'hui, il y a un vrai problème de longévité élective des élus. On doit aujourd'hui penser la politique comme un mandat provisoire au service des citoyens, peut-être mieux d'ailleurs rémunérer les élus, mais ne pas... au moins, le PS, aujourd'hui, est devenu un parti de professionnels de la politique, d'aspirants à l'élection, où il y a de moins en moins de militants. Les militants sont très âgés, ils sont issus du secteur public, et donc c'est un parti qui n'est pas en prise parce que les enjeux de carrière politique sont aussi essentiels. C'est ça ce que sont devenus les partis politiques.
En gros, c'est un peu obligatoire. C'est l'injonction paradoxale. C'est devenu obligatoire parce que les citoyens et les médias demandent beaucoup de proximité. Et ils ont raison. Donc on ne peut pas reprocher à des politiques de se professionnaliser parce que quand on fait du terrain, il faut être tout le temps sur le terrain. Sinon, on vous dit, on ne vous voit pas. Et d'un autre côté, reprocher la professionnalisation. Parce que je prends l'exemple du chef d'entreprise. Le chef d'entreprise qui rentrerait à l'Assemblée nationale, il met donc entre parenthèses sa carrière d'entrepreneur pendant 5 ans. La réalité, c'est que personne ne va l'attendre sur le marché pendant 5 ans. Quand il va revenir, sa boîte sera à lui, sera plus à lui ou elle aura coulé. Donc on ne peut pas considérer qu'on peut faire rentrer des gens qui sont issus de la société civile si on n'accueille pas favorablement ces gens-là.
Rémi Lefebvre et ensuite
oui,
Roger Martelly.
D'accord, mais enfin, la proximité des élus, ça c'est un discours aussi très convenu des élus, le terrain, les permanences, etc. Moi, ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, même au niveau local, il y a un fossé grandissant entre les représentants et les citoyens. Et finalement aussi, comme l'a dit Roger Martelly, il y a une telle technocratisation de la politique, c'est qu'aujourd'hui, au fond, les élus, même locaux, ont une distance de plus en plus grande avec les citoyens. Et donc la professionnalisation, c'est un défaut de proximité. Si on entend par proximité une forme de proximité sociale, on a de moins en moins de représentativité sociale des élites politique, même locale, on l'a vu lors des dernières élections municipales, et ça c'est un vrai problème démocratique.
Roger Martelly, au moment de votre départ du Parti communiste en 2010, vous écriviez ceci dans la lettre qui officialisait justement ce départ. « La démocratie est malade, elle ne va pas bien, faute de dynamique de politisation populaire.
Oui. »
On est en plein dedans, là.
On est en plein dedans, on est en plein dedans. Mais avant d'en venir, j'allais dire, à des pistes possibles de refondation, je crois qu'il faut que nous creusions le constat de ce qui ne va pas, parce qu'on ne peut pas faire l'économie de cette analyse-là. Il y a un écart grandissant entre le système politique et la société, ça c'est clair. Cet écart grandissant prend la forme d'un éloignement du personnel politique de la vie réelle par des phénomènes de technicisation, technocratisation, professionnalisation. Mais moi, je ne peux pas séparer ça d'une évolution de long souffle qui est née, à mon avis, au début des années 80. Au début des années 80, à droite comme à gauche, on a commencé à s'habituer à l'idée suivante, dans le cadre d'une mondialisation alors en essor, on ne peut plus en rester à des formes classiques de régulation entre guillemets keynésienne, comme on disait, de formes de régulation publique. Désormais, la dérégulation de l'activité économique, le recul de la dépense publique, la diminution de la baisse des coûts supposés du travail, etc., deviennent des composantes incontournables d'une politique économique publique. Dès lors, toute autre politique, entre guillemets, est considérée comme hors-jeu, comme ne faisant pas partie du débat public. Mais dès cet instant, le débat public a perdu ce qu'il avait auparavant, c'est-à-dire une opposition entre des grandes conceptions de l'organisation de la société, de la vie économique.
Et en même temps, regardez ce qui se passe actuellement au Parti socialiste.
Est réduit à une fonction de gestion technique, j'allais dire, de la marge.
Roger Martelly, aujourd'hui, par exemple, au Parti socialiste, les dissensions fortes qu'il peut y avoir entre ce qu'on appelle les frondeurs et puis l'aile plutôt social-libérale, ça ne participe pas d'un débat d'idées extrêmement actif pour vous ?
Mais un débat qui ne va pas jusqu'au bout. Parce qu'en l'occurrence, par exemple, que dit Manuel Valls ? Manuel Valls dit « il n'y a pas d'autre politique possible que celle que suit le gouvernement d'aujourd'hui ». Dès cet instant, puisqu'il n'y a pas d'autre politique possible, il n'y a qu'une solution, c'est créer l'outil de cette politique. Or, le Parti socialiste n'est pas l'outil de cette politique. Et face à ça, le problème, c'est que, me semble-t-il, les frondeurs ne vont pas jusqu'au bout. Parce que si une autre politique est à opposer à la politique qui est suivie à l'heure actuelle par le gouvernement de Manuel Valls, dans ce cas-là, il faut se poser la question de savoir jusqu'à quel point cette politique nouvelle s'éloigne des canons qui ont été observés depuis maintenant une trentaine d'années. Or ça, pour l'instant, ça n'est pas au cœur du débat public. Et de ce fait, je crains que ça n'en ait mis le véritable débat démocratique à l'intérieur de la gauche française.
Rémi Lefebvre, ce qui se passe aujourd'hui au PS, ça n'est pas la preuve qu'il y a une vraie vivacité dans le débat d'idées au sein du Parti socialiste ?
Oui, il y a une vivacité, mais il n'y a que 40 députés qui sont frondeurs. Mais surtout, le problème de ce que révèlent ces frondeurs et du bras de fer qu'ils ont entrepris avec le gouvernement, c'est le problème de l'existence d'un réel parti socialiste quand le PS est au pouvoir. Bon, ce qui est un peu le même problème à l'UMP, hein, puisque quand l'UMP était au pouvoir, Nicolas Sarkozy a supprimé le titre de président de l'UMP. L'UMP n'existait plus vraiment, ce qui est en train d'arriver au PS. Et au PS, ce qui est stupéfiant, c'est qu'on a une politique qui est menée au nom du PS par le président Hollande, élu et qui était le dirigeant du Parti Socialiste, qui n'est pas du tout conforme au projet qui avait été voté par le Parti Socialiste, au centre de gravité idéologique du parti. Donc il y a un vrai problème aussi d'utilité du Parti Socialiste, que les militants d'ailleurs vivent très très mal, et aujourd'hui ils quittent le parti. Il y a tous les jours des centaines de militants socialistes qui quittent le parti parce qu'ils ne comprennent pas que l'organisation dont ils sont membres soit aussi désavouée, soit aussi discréditée par la politique du gouvernement. Donc ça, c'est aussi un autre phénomène, c'est qu'aujourd'hui, dans ces partis de pouvoir que sont le PS et l'UMP, les partis politiques n'existent plus quand les dirigeants sont aspirés par le pouvoir, parce qu'au fond, des logiques qui les dépassent, peu à peu prévalent, et donc les partis politiques quasiment disparaissent, ou alors n'existent que sous des formes de contestation, comme on le voit avec les frondeurs.
Jonas Haddad, je ne vais pas vous demander de commenter ce qui se passe aujourd'hui au Parti Socialiste, mais essayons de voir, vous, quelles sont vos initiatives que vous essayez de mener justement au sein de l'UMP, c'est-à-dire la refondation à l'intérieur d'un parti politique. Dans votre livre que j'évoquais déjà tout à l'heure, Droite 2.0, vous émettez une quarantaine d'idées pour réformer le pays. Alors, il y en a quelques-unes que j'ai relevées parce que c'est celles qui me paraissaient les plus surprenantes, en tout cas les plus inédites par rapport au débat. Limiter les indemnités chômage à 2000 euros et pendant 6 mois. Casser les ensembles HLM et reconstruire des immeubles et des quartiers à taille humaine. Ou encore remplacer les conseillers d'orientation par des témoignages de professionnels. J'étais un peu surpris de ne pas trouver dans vos 40 propositions des propositions sur justement la façon de régénérer la démocratie, de refaire de la politique, peut-être de moderniser les partis politiques. Pour vous, le débat, il n'est pas complètement là ?
En fait, on a pris le parti dès le départ de casser toutes les idées reçues sur la politique et sur ce qu'on peut considérer comme des modernisations. Je prends un exemple. Vous parlez aujourd'hui à des cadres du Parti Socialiste ou de l'UMP. Quand vous leur dites est-ce que vous ressentez des effets positifs d'une parité imposée, ils disent finalement qu'on est arrivé au bout d'un système. Je prends un exemple, le parti de Nicolas Dupont-Aignan.
Vous dites une parité imposée, c'est-à-dire parité homme-femme.
Oui, notamment sur les cantonales qui arrivent avec un tandem. Je prends l'exemple de Nicolas Dupont-Aignan. Il avait 70% de femmes dans ses candidates et il a été sanctionné parce qu'il y avait trop de femmes. Donc une parité arithmétique, par exemple, pour nous, c'est une idée reçue qui est bête parce que finalement, on ne donne pas la place notamment à des femmes qui pourraient être méritantes. Et deuxièmement, le discours habituel qui consiste à dire il faut limiter le nombre de mandats dans le temps, dans l'espace, etc. On n'est pas d'accord avec ça de la même façon parce que aujourd'hui, l'exemple abouti de l'éloignement le plus prégnant de la vie politique et des concitoyens, c'est l'exemple européen. On dit « Ah, mais ils sont loin, ils sont à Bruxelles, on ne comprend pas ce qu'ils font, etc. » Moi, j'ai peur que si demain, effectivement, on va sur une limitation des mandats stricte, on va dire « Ah, mais ils sont à Paris, ils ne comprennent rien. » Et on va dans le processus que vous évoquiez tout à l'heure de technicisation. Parce que le député qui est à Paris toute la semaine, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire que des lois. Et il va être jugé sur sa capacité à être un gestionnaire. Il ne va pas être jugé sur sa capacité à entraîner des gens dans une circonscription par une fonction tribunicienne. Donc on perd encore plus de sens politique avec ces idées reçues. En revanche, nous, ce qu'on proposait avec ces options concrètes, c'est de dire que finalement, si la droite veut se refonder, elle doit être extrêmement solide sur ses valeurs, sur certains points, mais elle doit être aussi beaucoup en avant-garde. Parce que nous, il y a une question de génération qu'on met en avant. Et là, je pense que ça peut être une différence par rapport à d'autres groupes qui se montent à droite. C'est que nous, on considère qu'on est la première génération à réellement vivre le déclin. Ça fait des années qu'on nous dit « Ah, la France est en déclin, patati patata ». Bon, la réalité, c'est que nous, on est la première génération dans laquelle on voit des jeunes partir du pays. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder ça dans le bouquin, c'est qu'on dit à un moment, c'est vrai qu'à droite, on a été obsédé de l'immigration. Savoir qu'est-ce qui rentre, comment on fait pour le contrôler, etc. Nous, on est des obsédés de l'émigration. Le dégoût de la politique, le dégoût parfois de la France et de sa capacité à recréer de l'avenir est tellement fort chez les jeunes qu'on a besoin d'avoir les solutions choc dont vous avez parlé. Et c'est pour ça qu'en fait, en termes de degré, on va toujours sur des propositions plus chaudes et plus innovantes.
Et ces solutions, elles vont où aujourd'hui ? C'est-à-dire, vous les transmettez à qui ? Est-ce que vous en voyez exister ailleurs que dans vos think tank ?
Alors, je vous prends un exemple. Quand on a lancé le think tank, on a eu Frédéric Lefebvre, qui est un de nos invités parlementaires. On lui a proposé la chose suivante, c'est de dire que les régions, les futures régions, il fallait les calquer sur les euro-régions. Parce que quitte à sauter un échelon, autant sauter directement un échelon et finalement aller sur les euro-régions pour faire réellement des économies et demander des subventions à l'Europe. Résultat des courses, le soir même, quand il y avait la réforme territoriale, il a dit « Banco, je prends » et il a pris cette proposition. Ce n'est pas passé parce qu'on n'est pas dans la majorité, mais nous, c'est notre rôle. C'est que les gens reprennent nos idées et que ce soit les idées de refonder la droite qui pèsent dans le débat public.
Roger Martelly, oui. Il a raison, Jonas Haddad, de croire que la refondation, elle peut passer, elle peut se faire de l'intérieur du parti auquel il appartient, en l'occurrence l'UMP.
Je ne discuterai pas cette question parce que ma réflexion, moi, se construit ailleurs. Elle se construit ouvertement à gauche. Voilà.
Et mais elle se construit aussi de votre expérience de refondateur à faire passer la refondation.
Oui, mais justement parce que je pense que prendre la question de la refondation par le seul prisme du parti politique est insuffisant. La démocratie est malade. Et si la démocratie est malade, c'est parce qu'il y a un rapport entre le peuple et la vie politique institutionnelle. Pour moi, la clé de toute avancée à venir se trouve dans la politisation des catégories populaires. Pour les avoir laissées sur le côté, on a produit du ressentiment, et le ressentiment, ça produit de l'abstention, et ça produit du vote vers l'extrême, vers le Front National.
Mais qui pour porter ce ressentiment, qui pour porter cette politisation des classes populaires? Parce que ce n'est pas les partis politiques qui sont encore les mieux placés.
Mais, oui et non. Politiser les catégories populaires, pour moi, ça passe par une refondation des cadres de l'activité politique en général et pas simplement des partis politiques.
Oui, mais on ne pourra pas se passer de la personnalisation.
Mais il ne faut pas...
Des rassemblements bleu marine, c'est ultra personnalisé.
Attendez, pour moi, ça signifie au moins trois choses. C'est d'abord, il faut refonder la question de la fonction des organisations politiques, des activités politiques organisées. La fonction, ça ne doit pas être simplement la sélection du personnel politique, des gouvernants, ça doit être la capacité à faire en sorte que les attentes, les peurs, les souhaits se transforment en projets politiques qui puissent s'exprimer dans l'espace politique, y compris institutionnel.
Je suis pas totalement aligné sur ça, excusez-moi, hein, mais je trouve que c'est oublié, par exemple, qu'en 2007, il y a eu 85% des gens qui ont voté, 53% qui ont voté pour Sarko et 47% qui ont voté pour Ségolène Royal, parce qu'à un moment, ils ont su incarner. Pour moi, la question, c'est plus la question de l'incarnation de la personnalisation que la question du parti politique.
Mais moi, je ne suis pas d'accord avec
Regardez, qu'est-ce qu'elle va faire, Marine Le Pen? Elle a envie de passer au rassemblement bleu marine.
Oui.
Elle met carrément son prénom à l'intérieur du parti politique. Parce que la réalité, c'est que les gens... Quand vous parlez de classe populaire, je ne veux pas faire de plaqué d'analyse, mais il y a besoin d'avoir une personnalisation, que les gens sentent l'humain plutôt que le parti politique en tant que tel.
De l'humain, de l'incarnation, si vous voulez, mais la solution n'est ni dans l'incarnation, ni dans la représentation, il est dans l'implication civique. Si les partis, si les organisations politiques ne sont pas sur le terrain de l'implication des citoyens, ils sont à côté de la plaque. Mais pour ça, ça signifie qu'il faut qu'ils établissent d'autres relations avec la société, d'autres relations avec le milieu associatif, une plus grande porosité avec ce qu'on appelle le mouvement social. Et ça suppose donc une transformation des formes d'organisation. Le parti fonctionne de manière hiérarchique, verticale, par fondation, tout simplement parce qu'il a copié le modèle de l'État.
Aujourd'hui, la morcellisation de la société, la façon dont, par exemple, les jeunes interagissent, ils ne réagissent pas sous ce format-là de mouvement social ou mouvement associatif. Moi, je vois, par exemple, comment j'interagis avec...
Peu.
Non ?
Il y a quand même beaucoup de mouvements sociaux justement qui se font en dehors des partis politiques.
Oui, mais d'un autre côté, il y a beaucoup plus de morcellisation, c'est-à-dire qu'ils vont directement s'adresser à vous pour vous interpeller. Regardez, moi, le nombre de messages, d'interactions que je peux avoir avec des jeunes qui ne sont pas du tout dans la politique et qui viennent me prendre sur les réseaux sociaux, me dire là sur ce que tu as dit c'est faux, là sur ce que tu as dit c'est faux. Il ne faut pas considérer qu'il y a des masses comme ça de mouvements sociaux et de mouvements associatifs qu'on peut créer de la porosité. Pourquoi je parle d'incarnation ? Parce que l'incarnation, elle permet aussi d'aller toucher des gens, des individus qui, après, vont communiquer avec vous par les réseaux sociaux ou par le biais de ces supports-là.
Rémi Lefebvre, l'an dernier, la revue Esprit publiait un dossier qui était intitulé « À quoi servent les partis politiques ?» Est-ce que la question se pose de manière encore plus pertinente aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut envisager la refondation avec les partis politiques ou sans les partis politiques ?
Le problème, c'est que les partis politiques sont greffés au système représentatif. Tant qu'il y aura des élections, il y aura forcément des partis politiques. Comme l'a bien montré le sociologue Max Weber dès la fin du 19e siècle, il ne peut pas y avoir d'élections sans partis politiques. Il n'y a aucune démocratie sans partis politiques. Alors par rapport à ce qui était dit, le problème spécifique aussi en France, on a parlé d'incarnation, de personnalisation. Le problème en France, c'est cette élection présidentielle au suffrage universel direct, qui est un système unique au monde et qui fait que les partis politiques doivent être aussi des machines présidentielles. Et ça, c'est aussi une difficulté. C'est comment, au fond, les partis politiques, aujourd'hui, ont avalisé ce système présidentiel qui s'impose à eux. Le problème de la société civile qui a été évoqué aussi, la porosité, Roger Martelly dit plus de porosité. Mais le problème aussi, aujourd'hui, c'est que le monde associatif a pris ses distances avec le monde partisan. Les syndicats ont pris de la distance avec le monde partisan. Donc tous ces mondes sont de plus en plus clos, refermés sur eux-mêmes, et donc les partis politiques ne sont plus irrigués. Alors par rapport à cette crise, les partis politiques, en fait, la seule fonction qu'ils jouent, et encore, c'est une fonction de sélection des candidats aux élections locales. Aux élections présidentielles, il y a les primaires. Mais sinon, leur fonction idéologique, a décliné, leur fonction intellectuelle a décliné, les think tanks sont en dehors des partis politiques, leur fonction d'intégration sociale a décliné, hein. Aujourd'hui les milieux populaires ne sont plus vraiment socialisés par les partis politiques, et donc comme je le disais tout à l'heure, on a l'impression d'une coquille vide. En même temps, le paradoxe, c'est qu'on voit mal une démocratie sans partis politiques. D'ailleurs, ces partis politiques, qui on l'a pas dit, vivent de plus en plus de l'argent public, hein. Les partis politiques vivent de moins en moins des subsides des militants, qui sont de moins en moins nombreux, et de plus en plus sont des espèces de structures, de services publics financés par l'argent public et les impôts.
Un tout dernier mot, Roger Martelly.
Oui, moi je crois que nous sommes dans une situation contradictoire. Les partis politiques, pour une part, ont mal vieilli, pour une part, il y a quelque chose en eux qui est dépassé. En même temps, aucune forme alternative ne s'est véritablement imposée dans l'espace public. Aucun mouvement, entre guillemets, n'a réussi à assumer les fonctions des partis politiques.
Donc en attendant qu'il y ait une nouvelle forme, on garde les partis.
Il faut prendre acte de cette contradiction. Il faut expérimenter des manières nouvelles d'associations politiques. Il faut travailler les partis de l'intérieur, les transformer dans un sens démocratique. Et il faut travailler la rencontre entre cette expérimentation nouvelle et ces formes beaucoup plus anciennes. C'est de cette rencontre entre du nouveau et de l'ancien transformé que naîtra peut-être une étape nouvelle de l'action politique et peut-être une étape nouvelle de la démocratie.
Eh ben merci beaucoup Roger Martelly pour cette conclusion. Merci également à Jonas Sadad et à Rémi Lefebvre. Vous savez que vous pouvez poursuivre notre discussion sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Demain à 18h20, nous consacrerons notre émission au malaise des chercheurs français. Ce sera une discussion entre la ministre de la Recherche Geneviève Fioraso et deux membres du collectif Science en Marche.